Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Les réseaux sociaux devant la justice citoyenne, ça se passe en Allemagne. La dépendance des Européens à l'énergie russe, nous en parlons avec la revue Contexte, et de l'électro-jazzy du Danemark pour finir cette émission. Voilà l'essentiel du programme. Bienvenue à vous. Et tout d'abord, cette question, la guerre commerciale aura-t-elle lieu entre les États-Unis et l'Europe? Il est clair que la stratégie économique de Donald Trump passe par les taxes douanières. Washington impose 25% sur l'acier et menace de taxer le vin et les spiritueux européens à 200%. Pour l'instant, en Grande-Bretagne, l'industrie des boissons se fait discrète pour ne pas attirer la colère des États-Unis, grands consommateurs de gin et de whisky. En Écosse, la production du scotch, le whisky single malt, repose pour une part sur les exportations outre-Atlantiques et un conflit ouvert pourrait être fatal aux distilleries indépendantes. À Aberdeen, le reportage de notre correspondant Thomas Arms.
Dans la petite distillerie Nacnian, dans l'extrême ouest écossais, la crainte est bien réelle. Les États-Unis représentent un marché de 200 000 livres sterling. Annabelle Thomas a conçu ce whisky à la mode, bio, 100% énergie renouvelable, zéro émission de carbone et dont l'entreprise est dirigée par une femme.
Nous produisons un whisky fruité et élégant. Et c'était mon objectif dès le départ. Ce que je voulais obtenir, c'était un whisky qu'un novice trouverait très accessible, mais qu'un amateur de whisky trouverait tout de même très intéressant et plaisant à déguster. Ce n'est pas pour tout le monde. Je ne veux pas que tout le monde aime le Nacnian, mais je veux que certaines personnes adorent le Nacnian. Je pense que c'est ce que nous avons réussi à générer jusqu'à présent.
Les États-Unis sont le premier marché d'exportation de tout le whisky écossais, avec des ventes atteignant près d'un milliard de livres par an. Devant la France, deuxième marché, avec 474 millions de livres. Pour le whisky Nacnian, les États-Unis représentent 10% des ventes, en particulier à New York et en Californie.
Nous avions toujours prévu d'exporter des quantités importantes, car le scotch est un produit d'exportation. Les États-Unis restent le marché le plus important pour le scotch haut de gamme. Et je pense que l'on ne peut pas prétendre réussir dans le domaine du scotch haut de gamme si l'on n'est pas bien implanté aux États-Unis. Certaines marques de whisky réalisent quand même 50% de leurs ventes aux États-Unis.
Alors, dès le jour de l'élection de Donald Trump en novembre dernier, la question du whisky a été abordée. Le Premier ministre écossais John Swinney en parle depuis à chaque fois qu'il est en contact avec Trump et son administration.
Je suis très préoccupé par la possibilité qu'un tarif douanier soit appliqué au whisky écossais, ce qui s'est déjà produit par le passé. J'ai eu un appel l'autre soir avec Trump et j'ai rappelé l'importance de l'industrie du whisky pour l'Écosse et le marché de l'exportation aux États-Unis.
Car il y a un précédent. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà imposé 25% de taxes sur les importations de whisky écossais. C'était en 2019 et en 18 mois, ces tarifs, selon le vocabulaire du président des États-Unis, avaient coûté 600 millions à l'industrie, selon les chiffres de la Scotch Whisky Association. Nacnian ne produit du whisky que depuis 2017, mais d'autres distilleries indépendantes, un peu plus anciennes, craignent que le retour des taxes ne leur soit fatal. En 2019, les distilleries Ian MacLeod, fortes de 15 marques un peu partout en Écosse, ont par exemple perdu jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Et les grands groupes de spiritueux comme Diageo, qui exportent le Johnnie Walker, sont moins loquaces, mais ils s'inquiètent également. Ainsi, début mars, ce groupe a d'ores et déjà réduit ses prévisions de vente à moyen terme aux États-Unis de 5 à 7% et anticipe 160 millions de livres de pertes. Maintenant, tout dépend du niveau des taxes douanières, 10, 25 ou 200%. Annabelle Thomas.
La différence est énorme. S'il s'agit de 200%, nous abandonnons. Honnêtement, nous cessons de vendre. S'il s'agit de 10%, nous et le vendeur, l'importateur, nous l'absorberons dans notre marge et notre entreprise sera moins rentable. Nous n'avons jamais fait de commerce avec des droits de douane de 25%. Nous testerions des prix sur le consommateur. Nous ne pouvons pas absorber 25% dans notre marge. Nous devrions donc augmenter les prix. On peut alors supposer que nos volumes de vente vont diminuer, mais de combien ?
Et tout cela aurait un impact non négligeable sur l'économie du Royaume-Uni. L'industrie du whisky emploie 66 000 personnes et dans certaines régions rurales, en particulier en Écosse, c'est le seul employeur. Mais il existe un plan B pour les whiskies écossais si leurs relations outre-Atlantique s'envenimaient.
Nous continuons actuellement notre activité aux États-Unis comme s'il n'y avait pas de droits de douane. Nous continuons donc à investir sur le marché, nous continuons à anticiper la croissance et nous changerons de stratégie si des droits de douane sont appliqués plutôt que de le faire maintenant, comme rien n'est sûr. Mais en même temps, nous investissons et développons notre distribution en Asie. Comme ça, nous pouvons nous retourner vers un autre marché plutôt que de partir de zéro en Asie, si les droits de douane venaient à être imposés.
Histoire d'Amadou et Donald Trump, Diageo et la Scotch Whisky Association sont en pourparlers discrets avec l'administration états-unienne et ils jouent sur l'émotion. S'attaquer au whisky serait s'attaquer à l'Écosse, d'où venait la mère de Donald Trump, l'Écosse, où est né son passe-temps favori, le golf. Mais Trump préfère de loin les sodas au whisky.
Il y a plus de 3 ans déjà, en février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie forçait les Européens à se libérer de leur dépendance aux énergies russes. Après un mouvement de panique inflationniste, les 27 ont réformé les règles du marché et diversifié les approvisionnements. Mais est-ce suffisant aujourd'hui ? Élément de réponse avec Anna Hubert, journaliste spécialisée dans les questions énergétiques à la revue Contexte. Anna, est-ce que l'Union européenne est sevrée de l'énergie russe ?
Disons que le bulletin de notes de l'Union européenne dirait sûrement « effort notable, mais peut mieux faire ». Je vous donne quelques chiffres. Du côté des combustibles fossiles d'abord. Le pétrole russe représentait 25% des importations de l'Union avant-guerre, c'est 3% aujourd'hui. Quant au gaz russe, il passe de 45% à 20% des importations européennes. Les combustibles nucléaires maintenant. Là, les importations russes sont en croissance, la Russie continue de fournir à l'Union européenne des services liés à l'uranium ou aux combustibles nucléaires. Mais cette dépendance vis-à-vis de l'atome reste en euros moins importante que celle liée aux fossiles, pétrole et gaz russe.
Et à combien s'élève la facture énergétique que l'Union européenne paye à la Russie ?
À 22 milliards d'euros, rien que pour les hydrocarbures en 2024. 22 milliards payés par l'Union européenne à la Russie, c'est 3 milliards de plus que le montant de l'aide financière envoyée par l'Union à l'Ukraine la même année. On estime aussi que depuis le début de la guerre, la Russie aurait pu acheter 2400 avions de chasse F-35 rien qu'avec des achats de combustibles fossiles européens.
Mais Anna, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se passer une bonne fois pour toutes de ces importations ? Qu'est-ce qui bloque ?
Plusieurs choses. D'abord, le gaz russe est traditionnellement bon marché, donc les pays qui continuent d'en recevoir, comme la Hongrie ou la Slovaquie, freinent toute tentative de sanctions européennes qui interdiraient ces importations. D'autant que ces deux gouvernements entretiennent des relations cordiales avec le Kremlin. Ensuite, il faut s'assurer d'une alternative viable aux énergies russes. L'Union européenne installe des renouvelables et de plus en plus de pays se convertissent au nucléaire, mais ces solutions peuvent difficilement remplacer, en tout cas à court terme, le gaz russe. Les renouvelables, parce qu'elles sont une source d'énergie intermittente, donc peu adaptée à la consommation des industries notamment. Et l'atome, car il faut plusieurs années, il faut 10, 15 ans pour construire une centrale.
Mais en attendant, l'Europe se tourne quand même vers d'autres partenaires pour se fournir.
Oui, et surtout vers les États-Unis, qui sont devenus le principal fournisseur de gaz naturel liquéfié de l'Union. Ils assurent près de la moitié de ses besoins, mais l'Amérique de Trump est-elle vraiment un partenaire fiable ? Faut-il remplacer une dépendance par une autre ? Pour limiter les risques, l'Europe multiplie les accords avec la Norvège, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, mais là encore rien n'est simple. Je vous donne un exemple. Pour répondre à la demande en gaz croissante de la part de l'Union européenne, l'Azerbaïdjan a à son tour augmenté ses importations de gaz russe.
Est-ce que ça veut dire, Anna, qu'il faudrait du coup aller plus loin que le plan déjà adopté par l'Union européenne en mai 2022 et qui était censé mettre fin à cette dépendance à l'égard de l'énergie russe ?
Oui, alors, poussé par plusieurs pays comme la Pologne ou les Pays-Baltes, la Commission a effectivement promis une feuille de route détaillant de nouvelles actions. Sauf que ce texte qui aurait dû sortir ce 26 mars, il a brusquement disparu des agendas de la Commission il y a quelques semaines.
Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce que l'initiative est enterrée ?
Non, le commissaire à l'énergie continue de la promettre pour bientôt. Toutefois, sa disparition de l'agenda en pleine commémoration des 3 ans de la guerre en Ukraine a envoyé un message désastreux. En coulisses, on comprend que la Commission attendrait notamment le nouveau gouvernement allemand issu des élections du mois dernier pour savoir jusqu'où elle peut aller. Pour rappel, l'Allemagne était, avant l'invasion de l'Ukraine, l'un des pays européens les plus dépendants du gaz et notamment du gaz russe. Difficile donc pour la Commission de ne pas consulter un pays si puissant en Europe, si concerné par la question. Et puis certains observateurs expliquent aussi le retard pris par cette feuille de route pour l'indépendance énergétique par les relations compliquées avec l'Amérique de Trump. Il faudrait d'abord s'assurer que Washington ne profite pas de la vulnérabilité des Européens une fois qu'ils se seront coupés du gaz russe. Bref, on le comprend, Bruxelles marche sur des œufs.
Merci Anna Hubert, journaliste au Média Contexte. Pour tout savoir de la vie de l'Union européenne, le lien sera sur notre site internet. En Allemagne, un procès unique en son genre s'est déroulé la semaine dernière, celui des médias sociaux. Un procès symbolique, organisé par le Tribunal des Peuples du Monde, une organisation basée à Berlin qui met en lumière les lacunes de la justice internationale. Elle avait déjà instruit un procès contre Vladimir Poutine, un autre contre le régime chinois. Cette fois, l'objectif était de mettre en lumière les failles des médias sociaux en matière de droits de l'homme via le témoignage de victimes. Reportage devant la cour de Delphine Nerbollier.
Good morning. Trois juges en robe noire, deux procureurs, deux avocats de la défense, des parties civiles, des experts et un jugement. Ce tribunal des médias sociaux a tous les signes d'une vraie procédure, même si dans les faits, il n'a qu'une fonction symbolique et vise à combler les lacunes du système judiciaire international. Durant les 5 journées d'audience, plusieurs victimes se sont présentées à la barre pour expliquer les conséquences extrêmes de l'insuffisance de contrôle de la part des médias sociaux.
Now hearing from our next witness, expert and victim Alexandra Pascalidou.
Alexandra Pascalidou est d'origine grecque et l'une des premières journalistes d'origine étrangère à avoir travaillé à la télévision suédoise. Elle a été durant des années victime de campagnes de haine sur les réseaux sociaux.
Du matin au soir, ce sont des violences verbales, des propos racistes et sexistes. On me dit de rentrer chez moi, on me menace de mort, on me dit qu'on va me tirer dessus, me faire taire, me briser en morceaux. J'ai été victime de messages de haine, mes paroles ont été déformées, mon existence qualifiée de provocation. C'est un état de guerre numérique. Et que font les autorités suédoises? Elles disent qu'elles ne peuvent pas aider, les menaces sont anonymes.
Cette journaliste suédoise se fait peu d'illusions sur l'avenir, notamment lorsqu'elle voit les liens entre la nouvelle administration américaine et les géants du numérique.
J'essaie de ne pas trop déprimer, mais quand je vois ce qui se passe dans le monde avec tous ces machos qui normalisent le racisme, le sexisme, la misogynie, je suis très inquiète, je l'avoue. Parce qu'ils sont au pouvoir, ils possèdent tout et peuvent nous manipuler. Je suis très inquiète pour ma fille et pour les enfants qui grandissent dans ce monde.
C'est pour dénoncer l'absence de réaction des médias sociaux et des pouvoirs publics que ce procès symbolique s'est tenu à Berlin. L'Américain Gabriel Thiese y a joué le rôle de procureur. Dans son discours d'ouverture, il a dénoncé les dérives des algorithmes des plateformes comme YouTube, Facebook, TikTok, X ou encore Instagram.
Dans ce procès, nous allons demander aux juges de regarder plusieurs choses. Est-ce que les algorithmes de ces plateformes amplifient des contenus faux et sensationnalistes et interfèrent avec le droit de chacun à obtenir des informations impartiales? Le fait que cela crée des dommages peut-il être justifié? L'Internet et les médias sociaux ont été lancés comme un moyen extraordinaire de se connecter au monde, de partager des informations et de faire circuler des idées bénéfiques pour l'ensemble de la société. Mais posez-vous la question, quand avez-vous réalisé pour la première fois ces 15 dernières années que la désinformation diffusée sur les médias sociaux était devenue un problème? Nous avons tous vécu un tel moment.
Du côté de la défense, en revanche, on a tenté durant ce procès de déplacer le débat. Les médias sociaux ne sont pas forcément un outil parfait, mais ils sont devenus un élément désormais central du processus démocratique. Où sont d'ailleurs les représentants de ces fameux médias sociaux mis sur le banc des accusés? Aucun n'était représenté dans cette procédure, ni d'ailleurs les pouvoirs publics. Pour Maître Anne-Gabrielle Hay, le débat est biaisé.
Contrairement à une idée reçue, c'est pas le Far West. Il y a des règles qui sont déjà en place et on veut nous faire croire que les réseaux sociaux ne sont pas du tout réglementés. C'est faux. Maintenant, si ces règles ne sont pas adaptées, si elles ne sont pas mises en œuvre, je crois que le responsable, c'est plutôt les États. Vous avez les autorités de protection des données qui, depuis des années, disent qu'on n'a pas suffisamment de ressources, on ne leur donne pas plus de ressources. Donc c'est aussi, à un moment donné, un choix politique qui est fait de ne pas s'assurer que les règles soient mises en œuvre. Et ce n'est pas un acteur privé qui va s'auto-réglementer. Ça n'existe pas.
À l'issue de cette procédure, la Cour a confirmé que le plateforme viole de manière intentionnelle toute une série de conventions internationales sur les droits de l'homme et la protection de l'enfance. Ces trois juges ont énoncé une longue liste de recommandations à leur encontre et envers les États, comme la mise en place de compensations financières pour les victimes. Les juges ne se font toutefois pas d'illusions, leur jugement n'a pas force de loi. Ce tribunal vise avant tout à donner la parole à des victimes dans des affaires qui ne relèvent pas de la compétence des tribunaux officiels. Musique.
Music. Et oui, c'est l'instant Vincent Théval, comme chaque semaine. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous nous proposez cette semaine ?
Et je vous propose de faire connaissance avec deux musiciens danois, Skjold et Peder, qui s'associent aujourd'hui pour un premier disque. Aux frontières de l'électro, de l'ambient et du jazz, les deux artistes ont déjà collaboré sur le sixième album solo de Peder, paru l'an passé, un disque presque rétro, évoquant le jazz chanté des années 50 avec une petite touche expérimentale, un mélange à l'image du parcours de ce chanteur, multi-instrumentiste et producteur qui compose aussi des musiques de films. De son côté, le batteur Alexander Skjold travaille plutôt une musique électronique portée sur l'invention de rythmes et sonorités sophistiquées. À eux deux, Skjold et Peder ont produit Populous, un disque instrumental particulièrement élégant, où ils sont rejoints sur quelques morceaux par la chanteuse Samantha Mercano.
Les Danois Skjold et Peder avec Stille Regn. C'était le choix musical de Vincent Théval dans Accent d'Europe, une émission réalisée par Théo Raison, à retrouver quand vous voulez en podcast sur notre appli RFI Pure Radio. À demain.